Europe 1.
Ondelatte raconte.
Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire de deux adolescents de 16 et 17 ans qui, en 1911 à Paris, ont été condamnés à la peine de mort. Deux gamins cyniques, qui s'appelaient Georges Tissier et Paul Desmarais, qui ont tué pour de l'argent et le plaisir qu'ils pouvaient en tirer. Pour le débrief, je ferai appel à Pierre Piazza, qui publie aux éditions de La Martinière « Meurtre à la une, le quotidien du crime à Paris en 1900 ». J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Un matin de décembre 1910, à 8 heures, Madame Tissier, qui est mère célibataire et qui élève seule son fils, quitte son appartement du boulevard de la Villette.
Mais Georges ! Georges ! Mais dépêche-toi donc, en fait, tu vas être en retard, et moi aussi.
Georges, c'est donc son fils de 16 ans. Il commence un travail aujourd'hui. Et elle, qui est couturière chez Poiret, rue Saint-Honoré, va travailler comme tous les matins. Ils prennent le métro ensemble et se séparent à la station Barbès. Fin du premier acte. Le soir, vers 8h30, Madame Tissier rentre chez elle et elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Alors elle descend voir la concierge.
Figurez-vous qu'il m'arrive une aventure très désagréable. Je viens d'essayer d'ouvrir ma porte, mais je n'ai pas pu introduire la clé dans la serrure. Il y a une autre clé à l'intérieur. Ça doit être mon fils Georges qui a oublié de la retirer en partant. Vous l'avez vu rentrer d'ailleurs, Georges ?
Ah oui, ce matin. Ce matin, vers 9h, il était avec un de ses amis, Paul Desmarais, je crois.
Paul Desmarais, il continue de fréquenter ce garnement. Mais où est-il encore allé courir ? Ce misérable fera le désespoir de ma vieillesse. Eh bien, puisque je ne peux pas rentrer chez moi, je vais aller demander l'hospitalité à Madame Labétute, que voulez-vous ? Bonne nuit, Madame Crémer.
Le lendemain matin, vers 8h moins le quart, Madame Tissier revient chez elle et comme la veille, elle n'arrive pas à ouvrir la porte.
Georges ! Georges, es-tu là ? Ouvre, je te prie. Si tu es là, ouvre-moi.
Mais manifestement, il n'est pas là. Alors elle redescend voir la concierge.
Je ne comprends pas comment cette fichue porte est fermée de l'intérieur.
Attendez, je vais appeler mon mari. Il va essayer de l'ouvrir.
Le mari de la concierge monte, il trifouille la serrure et il ouvre la porte.
Oh !
Il y a un corps par terre, au beau milieu de la salle à manger. Un corps qui baigne dans son sang, recouvert par des édredons qui le cachent à moitié. Il descend l'escalier en courant, il arrive à la loge, il fait signe à sa femme.
Il y a un malheur là-haut. Son fils s'est suicidé.
Quand Madame Tissier apprend ça, elle s'évanouit. Georges s'est suicidé. Le mari de la concierge, lui, court prévenir la police. C'est un gardien de la paix qui est envoyé sur place, Monsieur Husson. Il ouvre la porte de l'appartement et il voit le cadavre. Ou plutôt, deux pieds qui dépassent des édredons qu'on lui a posés dessus. Il balaye la pièce du regard. Pas de désordre particulier, si ce n'est deux chaises renversées. Et puis il s'approche du cadavre en se disant « drôle de suicide ». Est-ce qu'on se suicide en se couvrant d'un édredon ? Il soulève l'édredon. et il voit tout de suite que ça n'est pas un suicide. C'est un meurtre. Ça saute aux yeux. Il y a une large blessure sur le côté gauche de la tête, comme un coup de couteau. Alors il rentre dardard au poste de police, prévenir son commissaire, qui vient immédiatement sur place avec le sous-chef de la sûreté.
Bien. Enlevez donc entièrement ces édredons qui recouvrent le corps, je vous prie, que je puisse faire mes constatations.
Et là, stupeur, il ne s'agit pas du tout du cadavre d'un adolescent. Le mort n'est pas Georges Tissier, le fils de la maison.
Je dirais que c'est un homme d'au moins 50 ans. Et vous avez vu son uniforme.
C'est un uniforme de garçon de recette. Un garçon qui est employé par les banques pour aller chez les gens encaisser ce qu'ils doivent. Le cadavre porte encore en bandoulière la sacoche qui contenait l'argent. Vide.
Commissaire, regardez l'état de son visage.
Deux plaies sanguinolentes. L'une au-dessus du menton, juste à la gauche de la paume d'Adam, et l'autre derrière la tête, à la base du crâne. Il n'y a pas que ça. Les jambes sont attachées, avec une corde tressée à la main et une bande de toile. Et l'homme tient dans sa main gauche sa sacoche ouverte et vide.
Donnez-moi ce portefeuille plein de sang, là, près de sa tête. Merci, que nous ayons au moins le nom de cet homme.
Mais dans le portefeuille, il n'y a pas de papier. En revanche, dessus, il est écrit « Société Générale ».
Au moins, ce pauvre homme ne sera pas dur à identifier. Il suffit d'appeler la banque.
Mais la banque, en vérité, a pris les devants. Ne voyant pas rentrer son garçon de recette, le directeur du personnel se présente au bureau de la sûreté Quai des Orfèvres.
« Voilà, je viens signaler la disparition d'un garçon de recette auxiliaire, Monsieur Jean-Émile André. » Hier, il était chargé de procéder à une centaine d'encaissements dans le 19e arrondissement, et le soir, il n'est pas rentré. Alors je suis allé chez lui, il habite rue du Retrait. Il n'y était pas. Si on tient compte de la somme qu'il avait sur lui, c'est inquiétant.
Et quelle somme avait-il sur lui?
Eh bien, hier, il devait encaisser 87 000 francs.
Ah oui, c'est une belle somme. Vous dites que ce garçon est auxiliaire?
C'est cela même. Il travaille par ailleurs, et il vient compléter son revenu en travaillant chez nous, sur ses loisirs, quoi.
Et la femme de ce Jean-Émile André, elle aussi est inquiète. Hier soir, il n'était pas là pour dîner. Et ce matin, il n'était pas là non plus. Elle va donc déclarer sa disparition au commissariat du Père Lachaise. Elle fait 20 pas dans la rue des Pyrénées, pas plus. Et là, elle voit deux hommes qui viennent droit sur elle. Elle comprend tout de suite.
Me dites rien. J'ai compris. Il est mort. C'est ça? On me l'a tué. Dites-moi tout. Je suis forte. Dites-moi au moins qu'on l'a pas coupé en morceaux.
Non, madame. Non. Mais il est vrai que Monsieur André est mort. Je suis désolé, madame.
Pendant ce temps-là, sur les lieux du crime, les policiers fouillent l'appartement. Près du cadavre, sur le plancher, il y a un fer à repasser couvert de lambeaux de chair. Et à côté, un long couteau à cran d'arrêt dont la lame est pleine de sang. Les deux armes du crime, c'est évident. Et là, le commissaire voit un tout petit morceau de papier sur le buffet. Il le prend. Paris, le 26 septembre 1910,
Au 30 septembre prochain, veuillez payer à mon ordre la somme de 125 francs, valeur reçue en marchandises, à Monsieur Tissier, 75 boulevard de la Villette, signé P.J. Desmarais, 40 rue Notre-Dame de Nazareth. Le commissaire descend tout de suite voir la concierge. Vous avez bien dit à Madame Tissier que le matin du crime vers 9h, vous aviez vu son fils, Georges, rentrer chez lui, avec l'un de ses amis. Oui, c'est ça. Et comment s'appelait cet ami? Paul Desmarais. Et à quelle heure est arrivé le garçon de recette? 10h30. Et que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec Georges. Je lui ai indiqué l'appartement au deuxième étage, au fond de la cour. Le commissaire comprend vite ce qui s'est passé. Ça me paraît clair. Les deux gamins ont fabriqué un faux billet à ordre pour faire venir le garçon de recette chez le jeune Georges. Et ils l'ont tué pour le dépouiller. Voilà donc ce qui s'est passé. Et ça explique que Georges Tissier ne soit pas rentré chez lui depuis. Autrement dit, l'un des deux a fait une sorte de chèque à l'autre, et le garçon de recette est venu l'encaisser. Et ce faisant, il est tombé dans le piège. Le commissaire décide alors d'aller voir si par hasard, le jeune Paul Desmarais, qui a 17 ans, un an de plus que son ami Georges, ne serait pas chez lui. Ses parents habitent 40 rue Notre-Dame de Nazareth. C'est la mère qui lui ouvre. Et le commissaire lui raconte la fausse dette, le garçon de recette et le cadavre. Et le jeune Georges qui a disparu lui aussi.
Oh ben ça ne m'étonne pas vraiment. Depuis qu'il a rencontré Georges, Paul a pris des habitudes de paresse. Il ne s'intéresse plus qu'à sa façon de s'habiller, à l'élégance de ses vêtements, à ses souliers vernis. Et puis alors, il a sans cesse besoin d'argent. Mon Dieu, vous pensez qu'il a tué ce garçon de recette? Je veux dire, vous le pensez vraiment?
Oui, il le pense vraiment. Un autre policier va voir Madame Lapatute, cette amie chez qui Madame Tissier a trouvé refuge quand elle n'est pas arrivée à ouvrir la porte de chez elle.
Oh, bah, Georges, c'est un paresseux, un débauché. Et ses mœurs, pardon, sont plus que suspects. Depuis quelque temps, il faisait le désespoir de sa mère. Mais de là à ce qu'il commette un meurtre tout de même, j'avoue que je n'y aurais pas pensé. 16 ans, vous vous rendez compte?
À votre connaissance, madame, le jeune Georges a-t-il commis d'autres méfaits par le passé?
Oh ben oui! Il était entré comme petit commis à la Société Française des Transports, du Faubourg Saint-Denis, vous savez. Il a disparu un jour, avec une somme de 1000 francs.
Et à votre connaissance toujours, il a été condamné pour ça?
Ah ben oui, il a fait 6 mois de prison. Mais quand il est sorti, croyez-vous qu'il a changé? Pensez-vous qu'il a continué à vivre sa vie oisive et vicieuse? Sa pauvre mère est souvent venue me dire son chagrin. Quel malheur à cause de cet enfant.
Et donc, où sont-ils tous les deux? La sûreté fait envoyer 150 télégrammes à toutes les polices du pays, avec un signalement précis des deux garnements. Louis-Georges Tissier, 16 ans, 1m61 environ, corpulence frêle, faciès maigre, cheveux bruns et imberbes. Et Paul Desmarais, 17 ans, 1m68 environ, forte corpulence, cheveux châtains, imberbe, figure joufflue, regard sournois, démarche nonchalant. C'est écrit comme ça, hein, sur l'avis de recherche. Et à côté de ça, au cas où les deux n'auraient pas quitté Paris, la sûreté met en place une surveillance minutieuse sur les grands boulevards et partout où on s'amuse dans la capitale. Maintenant qu'ils ont l'argent, on peut imaginer qu'ils vont le dépenser et prendre du bon temps. S'ils sont encore à Paris, ils iront dans les endroits appropriés. Soyez vigilants, messieurs. Quelques jours plus tard, vers 1h du matin, trois inspecteurs de la sûreté sont alertés par l'un de leurs contacts.
J'ai ouï dire que deux jeunes gens très correctement vêtus sablent en ce moment le champagne en compagnie de deux jolies jeunes femmes dans une taverne de nuit du boulevard des Capucines.
Les policiers y vont tout droit. Ils n'y sont plus. Mais ils se font décrire les deux fêtards, et ce sont eux. D'après le bistrotier, les deux filles qui étaient avec eux sont des demi-mondaines, bien connues.
Oh ben je sais bien où elles ont leurs habitudes. Un hôtel de la rue Godot de Mauroy, près de la Madeleine. L'hôtel Stavia.
Les policiers se placent en surveillance devant l'hôtel pour la nuit. Le lendemain matin, vers 7 heures, les deux prostituées sortent ensemble de l'hôtel. Seules.
Mesdames, un instant s'il vous plaît. Nous aurions quelques questions à vous poser au sujet de deux jeunes garçons avec lesquels vous avez passé la soirée d'hier. Et cette nuit, semble-t-il. Voici une photo de l'un d'entre eux. Il s'appelle Georges Tissier. Vous le reconnaissez ?
Ah ben pour sûr, je le reconnais. Je viens de le quitter à l'instant.
Avant que nous montions les interpeller, que pouvez-vous nous dire sur la journée d'hier, par exemple, que vous avez passée avec eux ?
Oh ben, qu'ils sont très généreux. Mais ça nous a intrigués d'ailleurs. Ils nous ont promenés en automobile et ils ont donné à chaque fois 50 francs de pourboire au chauffeur. C'est beaucoup.
C'est beaucoup, en effet. Autre chose que vous pourriez nous dire sur cette journée d'hier ?
Oui, vers 7 heures, place de la Trinité, ils ont fait arrêter notre auto pour acheter un journal du soir à un camelot.
Et alors ?
Eh bien, quand ils ont vu la manchette qui annonçait l'assassinat d'un garçon de recette, il y en a un des deux qui a dit « Ah zut !» et l'autre a dit à voix basse « Tais-toi, tais-toi !» Alors on leur a demandé, avec mon ami, pourquoi cet article est bouleversé. Ils ont répondu « Voyez-vous, chers amis, nous sommes des fils de famille et ces événements nous troublent toujours. Il y a tant de rôdeurs à Paris qui en veulent à l'existence des gens fortunés. » Voilà ce qu'ils nous ont dit.
Et donc, que font les policiers ? Ils entrent dans l'hôtel.
Bonjour madame, police. Vous pouvez m'indiquer les chambres où deux jeunes gens de 16 et 17 ans ont passé la nuit avec ces deux femmes là-dehors ?
Ah ben oui, oui, oui. La 32 et la 38 au troisième étage.
Ils montent à l'étage, ils ouvrent les deux chambres et ils les trouvent au pieu, en caleçon.
Mettez donc un pantalon, jeune homme. Vous êtes en état d'arrestation.
Ah bon ? Et pourquoi arrêtez-vous deux paisibles dormeurs ?
Eh bien parce que vous êtes un assassin. L'assassin d'un garçon de recette. Et j'ai ordre de vous appréhender et de vous conduire devant le juge Joliot, juge d'instruction.
Avant de partir, il fouille les deux chambres. Il trouve des chemises et des caleçons tout neufs. De beaux mouchoirs, des dentifrices, des parfums valant 14 francs le petit flacon, des crayons rouges pour les lèvres, des limes à polir les ongles, des vaporisateurs dernier genre et des chaussures neuves. Et les deux garçons sont mis dans deux automobiles et emmenés au 36 quai des Orfèvres.
Assez vite, devant les policiers, ils avouent. Avec un certain cynisme d'ailleurs, comme s'ils racontaient une partie de plaisir. C'est Georges Tissier qui raconte le premier.
« Eh bien, il y a environ 3 semaines, on avait besoin d'argent pour nous amuser, quoi, pendant quelques jours. Et ensuite, nous avions dans l'idée d'aller n'importe où en France et de continuer à prendre du plaisir. Et c'est là que Paul et moi, nous avons eu cette idée de voler un garçon de recette. Racontez-moi comment vous avez procédé.
Eh bien, Paul a établi une fausse traite de 125 francs qu'il a tirée sur moi et qu'il a présentée à l'encaissement de la Société Générale. Et voilà, c'était une manière d'attirer cet homme chez moi. C'est tout.
Racontez-moi le matin du crime, jeune homme.
Eh bien, je suis parti de la maison avec ma mère. Normalement, je devais aller travailler. Mais en vérité, je suis allé chercher Paul. Et nous sommes revenus chez moi pour attendre le garçon de recette.
Vous aviez une arme sur vous ?
Oui, oui. Moi, j'avais un couteau ouvert dans ma poche et Desmarais avait un marteau.
Poursuivez.
Vers 11 heures, nous avons entendu frapper à la porte. Desmarais est allé ouvrir. Il l'a fait entrer et il a fermé la porte.
La suite, jeune homme, la suite. Je veux savoir qui de vous deux a fait quoi.
Et là, Georges Tissier raconte. Il dit que Paul Desmarais est passé derrière l'homme et qu'il lui a asséné plusieurs coups de marteau sur la tête. Et que pendant ce temps-là, lui l'a frappé à coups de couteau.
Et là, il est tombé comme une masse. Pour l'empêcher de crier, Desmarais lui a enfoncé des chiffons dans la bouche. Et puis, il l'a recouvert avec des édredons et après, il lui attachait les jambes avec une corde. Voilà.
Et après, jeune homme, enfin, après !
Eh bien, une fois qu'il ne bougeait plus, on a ouvert la sacoche. C'était un peu décevant. Dedans, il n'y avait qu'à peu près 1 000 francs en pièces d'or et en pièces d'argent. Alors nous avons pris son portefeuille et dedans, il y avait 3 000 francs.
Et pourquoi aviez-vous besoin de cet argent ?
Eh bien, pour prendre du bon temps. Et après, nous avions dans l'idée de partir, moi, à Rouen et démarrer à Biarritz. Il rêvait de visiter Biarritz.
Il raconte qu'après, ils sont allés faire un bon repas dans un restaurant de Passy, qu'ils sont allés ensuite au théâtre du Châtelet, et après dans une taverne des Grands Boulevards. C'est là qu'ils ont rencontré les deux filles qui les ont amenées à l'hôtel. Interrogé dans le bureau d'à côté, Paul Desmarais fait un récit absolument identique, avec la même désinvolture. Les deux sont emmenés devant le juge Joliot, qui cherche à vérifier qui a fait quoi. C'est essentiel. Celui qui a donné les coups de couteau est l'assassin. Georges Tissier répète devant le juge que c'est lui. Et Desmarais, bien content de ne pas être le meurtrier, lui colle à peu près tout sur le dos, en ajoutant un détail croustillant.
Ah ben quand je lui ai donné les coups de marteau, il m'a pris la main et il m'a mordu l'index, profondément à regarder.
D'après l'autopsie, pas de doute. C'est bien le coup de couteau à la nuque qui a tué. Pas les coups de marteau.
La lame, voyez-vous, a séparé 2 vertèbres. Et elle a sectionné la moelle épinière. Il n'y a aucun doute que c'est là le coup mortel.
Et c'est Tissier qui l'a porté.
Donc les deux garçons ont avoué. Et ils ont décrit leurs rôles respectifs. Et étant mineurs, ils se croient à l'abri d'une condamnation à mort. Eh bien, ils ont tort. Car si les jurés lèvent l'excuse de minorité, d'après l'article 67 du Code pénal, à 16 ans, ils risquent la peine de mort. Le 6 octobre, ont lieu les obsèques du garçon de recette. Et avant cela, plus de 10 000 personnes défilent chez lui rue du Retrait pour se recueillir devant le cercueil. Dans la foulée, le juge d'instruction ordonne le renvoi des deux garçons devant la cour d'assises pour assassinat. Le procès s'ouvre le lundi 23 janvier 1911 devant les assises de Paris, soit moins d'un mois après le crime. Le président commence par interroger Georges Tissier. « Et pourquoi aviez-vous un besoin si pressant d'argent ?»«
Eh bien, nous voulions voyager et nous amuser. »
Puis il se tourne vers Desmarais.
« Qui a eu l'idée du crime ?»
C'est Tissier. Au début, ça ne me plaisait pas du tout. Mais il est arrivé à me convaincre.
Et là se produit un incident. L'avocat général veut absolument montrer aux jurés les photos du cadavre sur la scène de crime. L'avocat de Desmarais bondit.
Mais enfin, c'est inutile et malsain. Les accusés ont avoué avoir tué. À quoi bon cette macabre exhibition ?
« Eh bien, pour montrer à messieurs les jurés, maître, la façon d'opérer de vos clients. » Finalement, on ne montre pas les photos. Le lendemain, l'avocat général Pessonnier se lance dans son réquisitoire.
Les deux accusés qui sont devant vous, messieurs les jurés, sont jeunes. Ils le sont tous maintenant. Mais cette considération doit-elle vous arrêter dans votre œuvre de répression ? Non. Peuvent-ils prétendre qu'ils ont reçu une mauvaise éducation ? Non. Ils appartiennent l'un et l'autre à des familles honorables qui leur ont donné de bons exemples. Je vous demande, messieurs les jurés, de répondre oui à toutes les questions qui vous seront posées. Et je vous demande aussi le silence sur l'admission de circonstances atténuantes liées à leur jeune âge. Partout, messieurs, on attend avec anxiété votre verdict. Défendons-nous. J'estime que si vous faisiez tomber 100 têtes d'assassins pour sauver une seule victime, c'est vous qui feriez preuve d'humanité.
Autrement dit, ils demandent la mort pour les deux. La tâche des avocats n'est pas facile. Maître Henri Millevoye plaide pour Georges Tissier.
À l'âge où les passions commencent à s'éveiller, il n'y a eu personne pour lui montrer le danger de la vie. Sa mère a obligé de travailler. La faute revient au père inconnu et à infâme qui, après l'avoir créé, a lâchement et égoïstement disparu.
Et ensuite, c'est maître Henri S. qui plaide pour Paul Desmarais.
Selon le médecin légiste, Un seul coup mortel a été constaté sur le corps de l'infortuné garçon de recette. Or, ce coup fut l'œuvre de Tissier. Desmarets n'a donc pas tué. Et pour cette raison, il ne doit pas aller à l'échafaud.
À 2h30 de l'après-midi, les jurés entrent dans la salle de leur délibération. Après une heure de délibéré, le président rend le verdict.
À la question « Georges Tissier et Paul Desmarets doivent-ils bénéficier des circonstances atténuantes au regard de leur âge ?» la réponse des jurés est non. En conséquence, la cour les condamne à être exécutés en place publique.
On les a condamnés à mort, deux garçons de 16 et 17 ans. Ils encaissent le verdict sans dire un seul mot. Pressés par leurs avocats, ils signent immédiatement un pourvoi en cassation. Il est rejeté un mois plus tard. Et là, il faut que je vous explique quelque chose. Si les jurés ont aussi facilement condamné deux adolescents à mort, c'est peut-être parce qu'ils savent que depuis qu'il est président de la République, Armand Falière gracie systématiquement tous les condamnés à mort. Et c'est ce qu'il fait. Il commue la peine des deux garçons en peine de travaux forcés à perpétuité. Quelques jours plus tard, il quitte la prison de la Santé et sont expédiés à la prison de Saint-Martin-de-Ré, sur l'île de Ré. Ils seront embarqués dans le prochain convoi de forçats pour le bagne de Cayenne.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.